Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Édouard Dupénoit. Bonjour Édouard.
Bonjour. Trois quarts d'heure face caméra pour dire tout le mal qu'il pense de la justice et du pouvoir politique de son pays. Joseph Kabila s'exprime au lendemain de la levée de son immunité par les sénateurs congolais. L'ancien dirigeant qui peut désormais être poursuivi pour trahison et ses liens suspectés avec le M23, il annonce se rendre bientôt à Goma. Une ville tenue justement par le groupe armé soutenu par le Rwanda. Niamey cherche à doser sa colère face aux sociétés chinoises qui exploitent le pétrole nigérien. Les autorités leur reprochent de ne pas se plier aux règles en vigueur, notamment fiscales, mais elles ne veulent pas non plus braquer leur principal partenaire économique. Cabral Libi, candidat à la présidentielle camerounaise, il a été investi par son parti, le PCRN. En France, des immigrés venus d'Afrique en majorité et des ressortissants plus diplômés que leurs prédécesseurs. L'INSEE livre un nouveau tableau très complet des flux migratoires. Nous sommes à Cannes aussi, bien sûr, où la croisette apprend la mort de Mohamed Lartaramina. C'était hier, alors justement que les festivaliers se remémoraient les 50 ans, jour pour jour, de la Palme d'Or du réalisateur algérien. Joseph Kabila engage donc sans attendre la riposte médiatique 24 heures après que le Sénat a levé l'immunité de l'ancien président de République démocratique du Congo. Il s'est fendu d'une longue allocution de 45 minutes publiée sur Internet. L'ex-dirigeant, passible désormais de poursuites judiciaires pour haute trahison, accusé toujours d'entretenir des liens avec la FCM23 soutenue par le Rwanda. Il annonce justement qu'il se rendra dans les prochains jours à Goma, capitale du Nord Kivu, sous le contrôle du groupe armé. Florence Maurice.
Pour justifier sa prise de parole, Joseph Kabila se présente en sauveur.
Continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger.
Sous la menace d'un procès pour complicité avec la FCM23, Joseph Kabila confirme son intention de se rendre à Goma et dénonce une justice instrumentalisée.
Il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à se défausser sur les autres, pour justifier leur contre-performance.
Jamais il ne prononce le nom de Félix Tshisekedi, mais la critique est acerbe. Il accuse son successeur d'avoir violé la Constitution à plusieurs reprises et qualifie d'illégitime les institutions du pays.
Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. Et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême.
L'ancien président conclut son discours en appelant à un sursaut patriotique à travers un pacte citoyen en 12 points. Joseph Kabila déclare vouloir jouer sa partition et œuvrer à la reconstruction de son pays.
Florence Maurice, on rappelle que c'est l'annonce de son dernier déplacement à Goma il y a un mois qui avait enclenché une série de perquisitions, mais aussi la suspension du PPRD, parti politique de Joseph Kabila. Outre la levée de l'immunité de l'ex-président, des proches de Joseph Kabila se trouvent eux aussi dans le viseur de la justice congolaise. Au moins deux personnes ont été arrêtées depuis jeudi. Le général Pierre Baniwesize, ex-chef de sa garde rapprochée, mais aussi Martin Kabouéloulou, ancien ministre des Mines, originaire du Katanga. Patient Ligodi.
Vers 3h du matin, des équipes d'agents civils et en treillis ont fait irruption au domicile de Martin Kabouéloulou, 77 ans, ancien ministre des Mines durant plus d'une décennie. Selon les sources sécuritaires, l'opération s'est déroulée sans violence. Martin Kabouéloulou a été conduit au Conseil national de cyberdéfense. Son épouse, ancienne députée, a brièvement été embarquée dans le même véhicule avant d'être relâchée pour regagner le domicile familial. L'un de leurs enfants a pu lui rendre visite. L'avocat, en revanche, n'a pas été autorisé à entrer. D'après plusieurs sources sécuritaires, l'ancien ministre a été interrogé notamment au sujet des carrés miniers qui appartiendraient à Joseph Kabila. Les autorités congolaises ont déjà évoqué la possibilité de saisir des biens liés à l'ancien président et à son entourage. Autre arrestation, celle du général Pierre Baniwesize. Selon des sources familiales, il se trouvait à Kinshasa pour solliciter une autorisation de soins à l'étranger. L'ancien chef de la garde rapprochée de Joseph Kabila est aujourd'hui commandant en second du secteur opérationnel du Haut-Touéré. À ce stade, les lieux et les conditions de sa détention restent inconnues.
Patient Ligodi, 6h35 à Kinshasa, même heure à Niamey, le Niger, où les autorités de transition cherchent encore la bonne formule face aux sociétés chinoises du secteur pétrolier. Depuis plusieurs semaines, semaines déjà. Le ministre du Pétrole, Saabi Oumarou, leur reproche de s'affranchir des règles en vigueur. Il souhaite notamment que les employés expatriés de ces sociétés quittent le territoire dans les prochains jours. Mais tout l'enjeu pour Niamey reste aussi de ne pas entrer en conflit trop frontal avec ces sociétés. La Chine restant le principal partenaire du Niger et le pétrole sa première ressource à l'exportation, Magali Lagrange.
Le ministre du Pétrole dénonce dans un courrier le mépris de la réglementation nigérienne. La compagnie pétrolière chinoise CNPC doit donc résilier les contrats de travail des expatriés employés depuis plus de 4 ans dans le secteur pétrolier au Niger. Tous doivent avoir quitté le pays à la fin du mois. Mais selon des cadres de la SORAZ, la société chinoise qui gère la raffinerie de Zinder, plusieurs dizaines d'employés seraient concernés. Saabi Oumarou accepte donc d'étudier les situation au cas par cas pour ne pas nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Les relations avec Niamey se sont déjà tendues. Il y a 2 mois, les directeurs de la CNPC, de la SORAZ et de WAPCO avaient été expulsés. Selon un expert du secteur, il existe un problème de confiance avec les sociétés chinoises, le Niger n'ayant pas les capacités de contrôler leurs activités. Niamey réclame par ailleurs des arriérés d'impôts à la CNPC qui lui a pour sa part accordé une avance de 400 millions de dollars l'an dernier. Enfin, les autorités nigériennes qui mettent en avant leur souveraineté ont déjà réclamé la révision des contrats et le recrutement de plus de Nigériens dans ces sociétés.
Magali Lagrange, merci beaucoup.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
À 5 mois de l'élection présidentielle, les candidatures se précisent encore au Cameroun où l'opposant Cabral Libi a été désigné candidat de son parti, le PCRN. Annonce officielle hier à l'occasion du congrès de ce parti camerounais pour la réconciliation nationale. Un congrès qui a drainé du monde, d'ailleurs non seulement des militants, mais aussi d'autres figures de l'opposition politique, et où l'on a évoqué, encore à mots couverts certes, l'idée d'une mutualisation des forces de l'opposition. Correspondance Richard Onanena.
Plusieurs centaines de militants du PCRN ont fait le déplacement pour assister à ce congrès. Cabral Libi rappelle qu'il a été choisi selon les textes du PCRN.
Le bureau politique a siégé le 21 mai dernier après avoir lancé un appel à manifestation publique à l'adresse de tous les militants qui souhaitaient briguer la magistrature suprême, a reçu les dossiers, a, conformément à nos textes, fait le tri et m'a accordé l'investiture.
Plusieurs figures de proue de l'opposition, dont Joshua aussi, candidat du SIF à la même élection, ont assisté au congrès du PCRN. Des soutiens considérables pour Cabral Libi.
C'est un honneur, c'est un privilège de les avoir eus à mes côtés, ce qui est aussi une forme de reconnaissance vis-à-vis de ma personne. Et cela ne peut en effet qu'augurer de lendemain de convergence, de lendemain de mutualisation.
Une mutualisation que Hilaire Kamga appelle de tout vœu. Sa plateforme, la Solution 25, milite pour un rassemblement des principales forces de l'opposition.
Je pense que la mutualisation est importante. Les gens doivent savoir ce qu'ils apportent dans une dynamique de mutualisation et dire comment ils font lorsqu'ils se mettent ensemble pour gérer le pouvoir collectivement. Cabral ne s'est jamais éloigné de cette idée-là. Tant qu'il reste dans le camp du changement, notre soutien va être garanti.
Arrivé en 3e position à la présidentielle de 2018, Cabral Libi s'apprête à vivre une 2e élection pour la magistrature suprême, malgré les querelles internes qui agitent son parti, le PCRN. Richard Odanena, Yaoundé. RFI.
Le Camerounais Eric Tanotato qui s'est rendu aux autorités américaines après avoir été mis en accusation par un jury fédéral de Baltimore. Ce ressortissant camerounais de 38 ans, installé donc dans l'état du Maryland, est accusé de complot en vue de fournir un soutien matériel à des groupes séparatistes armés anglophones, mais aussi d'avoir proféré des menaces visant à blesser ou à kidnapper des civils camerounais. Vous en lisez les détails sur RFI.fr. Une nouvelle vague de démissions au sein du PDG, Parti démocratique gabonais, l'ex-formation au pouvoir. Après la démission collective dans le courant de ce mois de mai de la majorité des cadres du parti de la province du Volontem, dans le nord du pays, et c'était hier autour de l'ancien Premier ministre Paul Biya Gemba de claquer la porte. C'est lui qui dirigeait le PDG pendant la transition. 260 mineurs, tous secourus en Afrique du Sud après 24 heures d'angoisse. L'exploitant de la mine d'or de Klof, à une 60 kilomètres de Johannesburg, annonce qu'il ne reste aucun creuseur sous terre. Les derniers ont pu être secourus hier soir. Ils étaient bloqués depuis la veille, jeudi, et à un incident qui avait endommagé le treuil qui permet de descendre au fond du puits. 17 ans d'évolution migratoire synthétisée dans une vaste étude. On en vient maintenant à cette grande enquête que livre l'INSEE en France, l'Institut National des Études Statistiques, qui a regardé comment ont évolué les mouvements migratoires entre 2006 et 2023 et qui a donc comparé plus de 15 années de données, d'où l'on peut retenir plusieurs chiffres notables. D'une part, l'Afrique est désormais le premier continent d'origine des immigrés qui arrivent en France, 45% d'entre eux. Algérie, Maroc et Tunisie sont les trois premiers pays en termes de provenance, mais la part de l'Afrique subsaharienne est celle qui augmente le plus vite. Autre enseignement, les immigrés africains sont de plus en plus diplômés. Chloé Pariset est l'une des autrices de cette étude.
Ce qu'on constate dans notre étude, c'est que à la fois l'Afrique représente une part plus importante des entrées aujourd'hui, mais aussi que le niveau de diplôme des immigrés nouvellement arrivés sur le territoire, et notamment des immigrés nés en Afrique, augmente entre 2006 et 2023. Plus d'un nouvel immigré né en Afrique sur deux est diplômé de l'enseignement supérieur en 2023. On peut émettre en tout cas deux hypothèses. D'une part, une élévation du niveau de diplôme dans leur pays d'origine, et d'autre part, aussi une immigration qui est sélective, c'est-à-dire que pour émigrer, donc pour partir de son pays, il faut aussi avoir des ressources, et le diplôme constitue une ressource importante pour vivre dans le pays d'accueil, donc des ressources économiques, mais ça peut être aussi des ressources humaines, des relations dans le pays d'accueil, mais aussi des ressources, effectivement, pour obtenir un visa en France.
Chloé Pariset, l'une des autrices de cette étude de l'INSEE, propos recueillis par Marie Cazadebé. On reste d'ailleurs en France pour refermer ce journal. Et pour accompagner les dernières heures du festival du film de Cannes, dont le palmarès sera révélé ce soir. Cannes, qui est venu percuter cruellement hier la mort de Mohamed Lahtaramina. Le réalisateur est mort à 95 ans, 50 ans jour pour jour après qu'il avait été récompensé de la Palme d'Or pour sa chronique des années de braise. Le film était justement rediffusé hier. Mohamed Lahtaramina demeure le seul réalisateur africain à avoir reçu cette récompense. Ouda Ibrahim assistait à la projection avant l'annonce du décès du réalisateur.
Mes deux frères sont restés au chevet de mon père, a déclaré Malek Lahtaramina avant la projection du film Chronique des années de braise de Mohamed Lahtaramina, son père, quelques heures avant l'annonce de sa mort par la famille à Alger. Il était le doyen de lauréat de la Palme d'Or, encore en vie, et son film récompensé l'avait propulsé définitivement sur la scène mondiale du 7e art. Mohamed Lahtaramina est l'un des rares cinéastes africains à avoir concouru quatre fois à la compétition officielle au Festival de Cannes. Avant d'avoir la Palme d'Or en 1975, il a été récompensé par le prix de la première œuvre pour Le Vent de Zorès en 1967. La lutte pour l'indépendance de l'Algérie était au cœur de cette grande fresque historique qui raconte en six chapitres, de 1939 à 1945, l'acheminement du peuple algérien vers sa liberté. Aujourd'hui à Cannes, nous ne célébrons pas seulement un film, a déclaré son fils, nous rendons hommage à une mémoire, à une conscience et à une œuvre qui, à travers l'art, a su porter la voix d'un peuple, l'histoire d'une lutte et l'âme d'un continent. Fin de citation. Houda Ibrahim, Cannes, RFI.
Et la fin de ce grand rendez-vous du 7e art que vous suivez.